BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. On parlera évidemment de ces dossiers des retraites avec toutes ces consultations qui commencent jeudi avec le Premier ministre François Omeril. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la CFE-CGC. Les cadres, on a un peu l'impression que ce sont les vaches à lait de toutes ces réformes. Vous nous direz si vous pensez effectivement et puis quelle sera votre position jeudi face au Premier ministre. Ensuite, je recevrai Hervé Monjotin. Il est le patron d'une grande ETI française, Socotec. Il part à l'assaut des États-Unis. Est-ce que c'est vraiment la bonne période? Et bien justement, on en parlera aussi avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Il sera avec nous à partir de 12h30. Hubert Védrine qui conseille de nombreuses grandes entreprises. Comment il voit, il perçoit un tout petit peu ce contexte géopolitique qui crée autant d'incertitudes. Mais tout de suite, bien sûr, les infos à propos d'incertitudes avec Julien Rézo. Bonjour Julien.
Bonjour Edwige, bonjour à tous.
Et on va parler du Brexit, hein, bien sûr.
Oui, les députés britanniques font leur rentrée cet après-midi. Une rentrée sous haute tension entre d'un côté des parlementaires qui veulent interdire un Brexit sans accord et de l'autre Boris Johnson qui menace les députés d'élections anticipées. On retrouve notre envoyé spécial Delphine New à Londres pour BFM Business. Bonjour Delphine, c'est une nouvelle bataille parlementaire qui s'annonce.
Reprendre le contrôle de l'agenda de la Chambre des communes aujourd'hui. Ils vont débattre et puis voter une motion en urgence, une motion destinée à empêcher une sortie sans filet de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Alors qu'est-ce qu'elle dit en substance cette motion? Eh bien, on va laisser le temps à Boris Johnson de négocier un éventuel nouvel accord avec Bruxelles d'ici au prochain sommet européen qui aura lieu à la mi-octobre. Faute de quoi, il faudra décaler le Brexit de 3 mois jusqu'au 31 janvier prochain. Alors, qui va voter cette motion? Eh bien, l'opposition, bien sûr, les travaillistes, les verts, les libéraux-démocrates, les nationalistes écossais et gallois, avec le soutien de quelques députés conservateurs frondeurs. Selon l'ancien chancelier de l'échiquier, Philippe Hammond, qui fait partie de ces frondeurs, eh bien, cette motion devrait rassembler une majorité aujourd'hui. Il faut savoir que Boris Johnson a menacé d'expulser ses députés rebelles. On a quelques poids lourds du Parti conservateur parmi ses frondeurs, le doyen du Parlement, Ken Clark, l'ancien chancelier de l'échiquier, dont je vous le disais, Philippe Hammond, et bien beaucoup lui ont répondu, eh bien pas de problème, nous sommes prêts à sacrifier notre carrière politique pour l'intérêt de notre pays, parce que ce no deal serait une catastrophe pour le Royaume-Uni. Que va-t-il se passer si tout à l'heure cette motion passe? Eh bien, des sources gouvernementales ont laissé entendre donc qu'il pourrait y avoir des élections anticipées le 14 octobre prochain. Merci. Mais attention, le gouvernement aura besoin de la majorité des 2/3 pour qu'elles se produisent. L'obtiendra-t-il? Ça, c'est une nouvelle bataille qui pourrait avoir lieu demain au Parlement britannique.
Merci Delphine New en direct de Londres pour BFM Business avec Éline Dany. A noter également que la situation politique a joué ce matin sur la livre. La monnaie est tombée brièvement sous le seuil d'$1.20 pour la première fois depuis janvier 2017. De son côté, Bercy sensibilise les entreprises à un Brexit dur. Le ministère organise à 16h une réunion avec les confédérations professionnelles pour les préparer à cette éventualité. Le gouvernement s'inquiète du manque de préparation des 30 000 sociétés exportatrices au Royaume-Uni. Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, était sur BFM Business ce matin. Elle incite les entreprises à déclarer leurs marchandises en amont de leur déplacement pour passer plus vite à la frontière. Les levées de fonds ont grimpé de 43% en valeur au premier semestre par rapport à l'année dernière selon le baromètre capital risque du cabinet EY. Les start-up françaises ont levé un total de 800 000 euros. 387 opérations ont été menées sur la période la plus importante, celle de Miro. La plateforme dédiée à la photo a levé plus de 200 millions d'euros.
Vous pouvez redire le chiffre, Julien, pour être sûr qu'on ait bien compris, parce que là, on n'a pas très bien compris.
Un levée de fonds total de 2,8 milliards euros.
D'accord, voilà, comme ça, on a compris.
Et puis, un bénéfice net en baisse de 60% au premier semestre pour Iliad, la maison mère de Free. L'opérateur a perdu sur la période près de 130 000 abonnés mobiles en France. En Italie, Iliad continue sur sa lancée avec plus de 3,8 millions d'abonnés recrutés au 30 juin. Le titre perd actuellement en bourse près de 4%. Pour le CAC 40, il est en baisse, une baisse de 0,6% à 5461 points. Et puis pour l'euro-dollar, 1 euro s'échange 1,09 $.
Merci Julien, on vous retrouve à 12h30. Tout de suite la question du jour avec François Omeril. Est-ce que les cadres sont un peu les pigeons de toutes ces réformes?
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
François Omeril, merci d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes président de la CFE-CGC. Vous rencontrez, comme tous les autres partenaires sociaux, le seul Premier ministre sera jeudi prochain. Je recevais ce matin Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. On va parler de la réforme des retraites. Juste, on a l'impression que les cadres, on l'a vu, les salaires augmentent fortement. Ils ont un taux de chômage qui est un des plus bas possibles, du moins en France. Et que du coup, on se dit, ils sont un peu les victimes de toutes ces réformes, la réforme de l'assurance chômage, voire la réforme des retraites. Ce sont un peu les vaches à lait du système aujourd'hui ?
Moi, je n'emploie pas le terme de vache à lait. Je préfère dire que les classes moyennes supérieures, les cadres en particulier, pour cibler sur cette catégorie-là, sont dans notre pays, dans notre démocratie, les plus gros contributeurs à la solidarité nationale. Et je dis que c'est bien, c'est une bonne chose. C'est ce qui rend notre société solide, équilibrée. Mais ce qui me paraît plutôt funeste et un peu inquiétant, c'est que ce gouvernement-là et les gouvernements qui ont précédé ce gouvernement ont tendance effectivement à cibler cette catégorie comme étant celle qui est le plus disponible pour continuer à augmenter à travers l'impôt sur le revenu et d'autres dispositifs, à augmenter sa participation, sa contribution à la solidarité, pourquoi pas, mais que par ailleurs et en parallèle, on lui enlève de plus en plus de droits à être allocataire de cette solidarité dès l'instant qu'un individu se retrouve en situation de devoir la solliciter. Et ça par contre, c'est très mauvais. C'est très mauvais, c'est un mauvais signal qui est envoyé à l'ensemble de la collectivité et en particulier, bien entendu, dans cette collectivité, au cadre qui s'implique beaucoup à travers leur métier, à travers leurs compétences, pour participer à l'effort, au développement de la société tout entière et de la nation.
Et ce message, vous l'avez fait passer auprès de nos dirigeants, ça, j'imagine que vous l'avez déjà fait passer, vous allez sans doute le redire jeudi. Est-ce que vous ne vous dites pas quand même, il y a un moment où ça suffit, quoi. Je veux dire, peut-être avoir une forme de rébellion des cadres, ou alors non, comme c'est eux qui ont le plus de chance dans cette économie, et du coup, on les entend peu.
Moi, je récuse le terme de chance. Hein, on est toujours le chanceux de quelqu'un, on est toujours le
bien nantis de quelqu'un d'autre. Ils ont une chance de trouver un job, ils ont une chance d'avoir une augmentation,
oui, mais vous savez,
peut-être plus que d'autres.
Tous les chiffres qui sont à la moyenne, comme je dis souvent, une moyenne c'est personne. Mais c'est vrai, effectivement, mais ça n'est pas démenti, que quand on a eu l'opportunité de faire des études, d'avoir un diplôme, d'être mieux placé sur le marché du travail, inévitablement, on a plus de chances de retrouver un travail, que ce soit en début de carrière ou en milieu de carrière. Ça n'emporte pas le fait que pour un individu qui est confronté à la difficulté du chômage, par exemple, mm-hmm. ou à d'autres problématiques, mais à ce moment-là, le problème, ouais. il se pose à 100%. Et donc, il faut mm-hmm. faire attention dans la façon dont aujourd'hui le gouvernement globalise toute une population et la traite de façon collective. Nous considérons qu'il la traite mal.
Alors, cette réforme des retraites, c'est la question que je posais aussi ce matin. Où sont vos lignes rouges? La ligne rouge de la CVT, on a bien compris, c'était l'âge pivot. La ligne rouge de FO, c'est presque l'ensemble de la réforme. Pour la CFE-CGC, c'est où la ligne rouge?
C'est très clair. Moi, je veux dénoncer une opération de communication qui finalement fonctionne plutôt pas mal, qui est de dire que dans les déclarations du président de la République, quand il nous dit moi j'aimerais bien qu'on revienne à la durée de cotisation, comme si c'était une main tendue aux partenaires sociaux, je veux dénoncer ça, c'est totalement faux. La référence à la durée de cotisation, c'est négatif pour tout le monde. Aujourd'hui, la durée de cotisation...
Pas pour les carrières longues au contraire.
Mais les dispositifs de carrière longue, ils existent et il faut qu'ils perdurent. C'est tout à fait normal de considérer les gens qui ont une carrière longue et leur proposer des conditions techniques de partir avant l'âge requis, quel que soit l'âge que l'on définisse. De la même façon, il faut tenir compte de la pénibilité. Moi, je veux redire ici que la durée de cotisation n'est pas superposable avec la pénibilité. On peut avoir un métier très pénible et donc revendiquer de partir mm-hmm. avant 42 ans ou 43 ans de cotisation, et c'est tout à fait justifié.
Et donc, pour être un peu concret, pour essayer d'être constructif, François Omeril, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous, sur l'âge pivot, est-ce qu'il a eu raison de dire, attendez, on est dans une négociation, donc on verra, ou vous pensez qu'on aura un âge pivot et on aura une durée de cotisation sans doute plus élevée?
En fait, Dans la proposition qui a été faite par le commissaire de Levroy, oui. Finalement, le projet est assez équilibré. Moi, je veux le redire ici, 18 mois de concertation, de consultation, pas seulement avec les partenaires sociaux. Moi, je crois pouvoir dire qu'on l'a rencontré pratiquement deux fois par mois. Tout ça nous donne un texte qui, moi, je veux dire, qui est intéressant. Parce qu'il a pris en compte les aspirations de tout le monde. Il y a tout un tas de zones qui sont aujourd'hui un peu des zones d'ombre, qu'il faut investiguer, pour lesquelles il faut rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais pour nous, à la CFE-CGC, il y avait quelque chose qui était fondamental dès le départ. C'est l'abandon à la référence de la durée de cotisation. Comprenez bien pourquoi. Aujourd'hui, l'âge moyen de rentrer dans le travail, c'est 22 ans. Pour quelqu'un qui a fait des études, bac plus 3, bac plus 5, pour un cadre, donc, quelqu'un qui se destine à prendre les responsabilités et la fonction de cadre dans l'entreprise, c'est plutôt 23 à 25 ans. Vous rajoutez à ça 43 ans, qui est la durée actuelle qui s'appliquera à cette population-là, et vous arrivez à 66, 68 ans. On est déjà très au-delà de ce qu'on a appelé l'âge pivot.
C'est pour ça que moi, j'ai tout ça d'un peu contradictoire. Oui.
Donc, revenir à la notion de durée de cotisation, c'est très pénalisant. Et je veux le dire, pas seulement pour les cadres. C'est pénalisant pour tous les gens qui ont fait un peu d'études ou qui ont eu une carrière difficile, notamment les femmes. C'est pénalisant pour tout un tas de publics. La durée de cotisation est un critère qui est pénalisant pour tout le monde.
D'accord. Est-ce que vous dites aussi, il faut être franc, il faut un peu cash, comme l'a été le président du MEDEF, en disant, de toute manière, on sera obligé de partir plus tard l'âge de départ à la retraite, il sera forcément plus tard. Il l'est déjà plus tard.
Mais le président du MEDEF, il dit bien ce qu'il veut. Mais il est président d'une organisation qui fédère les chefs d'entreprise, notamment les grandes, qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est virer les cadres.
Virer
les cadres à partir de 55 ans.
Ouais.
Aujourd'hui, il est confronté à un problème, je le dis un peu en souriant, malgré que le sujet soit quand même assez grave. Les entreprises, aujourd'hui, sont confrontées à un problème, ils n'arrivent pas à recruter, parce que les jeunes, pour le coup, les jeunes cadres, regardent à deux fois avant de venir dans ces entreprises, ils questionnent le projet, la motivation. Ils ont conscience aujourd'hui que c'est difficile de développer une carrière dans l'entreprise, que la pression elle est très forte et que parfois la souffrance elle est forte. Donc, d'un certain côté, ils veulent se débarrasser de toute une population qu'ils considèrent comme étant moins performante et trop chère, c'est-à-dire les gens qui ont atteint la séniorité, 50, 55 ans, 58 ans. Et d'un autre côté, il a un discours au niveau national en disant, de toute façon, il faudra travailler plus longtemps. Mais enfin, franchement, de qui se moque-t-on? De toute façon, aujourd'hui...
Il y a une prise de conscience, non, quand même, des entreprises ou pas sur la séniorité, comme vous dites?
Non, ils sont très loin de les faire correctement. Il faudrait aujourd'hui qu'on aborde vraiment le sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que être travailleur dans une entreprise après 60 ans? Moi, je veux qu'on y travaille. J'ai plusieurs fois tendu la perche avec les organisations patronales en disant, mais mettons le sujet sur la table.
Mais François Ambril, vous voyez bien qu'il y a une corrélation qui est évidente, en fait, sur le fait que si plus vous repoussez l'âge de départ à la retraite, plus un senior a une chance de rester longtemps dans une entreprise. Parce que si c'est à 62 ans, le chef d'entreprise qui va se dire, de toute manière, il va s'en aller dans 3-4 ans. Si c'est à une perspective plus longue, eh bien, à ce moment-là, on peut embaucher ou maintenir en situation un senior.
Vous voyez bien que la situation est paradoxale. En fait, ce qui est central, ce sur quoi il faudrait travailler, c'est ce qu'on appelle la retraite à la carte. Finalement, possibilité, la capacité donnée aux gens qui, en fin de carrière, considèrent qu'ils n'ont plus rien à faire dans l'entreprise et qu'ils ont d'autres projets à développer à l'extérieur. Regardez bien cette idée d'âge pivot. L'âge pivot n'est pas seulement un âge pivot par rapport à des systèmes de calcul de retraite. C'est aussi un âge pivot dans la vie. C'est un âge où la famille s'agrandit. On a des petits-enfants, on a peut-être d'autres projets. On est encore un peu en bonne santé. Je vous fais quand même observer que l'espérance de vie en bonne santé stagne depuis une vingtaine d'années. Donc tout ça, sont des paramètres sur lesquels, moi, je pense qu'on manipule un peu l'opinion. Notamment quand on nous dit qu'il faut augmenter la durée du travail et l'âge de départ en retraite parce qu'on vit plus longtemps.
Oui.
Mais ça, c'est une arnaque.
Pourquoi ?
Il faut le dire franchement.
C'est une réalité,
on échange. Mais non, pas du tout. C'est absolument pas une réalité.
Pourquoi c'est pas
une échange
réalité,
quelques années de vie supplémentaires dont aujourd'hui les statistiques nous disent que la probabilité de les faire en très mauvaise santé sont quand même relativement importantes, contre 3 années de vie après 60 ans, où on a encore tout un tas de choses à faire, où on a beaucoup de projets à développer. Donc, quelque part, il y a une duperie dans cette affaire. Il faut analyser tous les paramètres de cette problématique et regarder,
et donc,
considérer
que
quel est l'intérêt
François
économique.
Ambril, qu'est-ce que vous voulez, en fait, par rapport à ce texte que vous trouvez intéressant, pour reprendre vos propres propos? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on aménage par rapport à cette réforme des retraites?
Écoutez, moi, dès le début, je l'ai d'ailleurs dit sur ce plateau à vous-même, je pense que c'est une réforme inutile. parce que rien ne justifie sur le plan économique comme ça que...
Sur le plan économique, pour le coup, il y a une justification, c'est de mettre les comptes à l'équilibre en 2025.
Mais non, pas du tout. Sur les systèmes des retraites, moi je réfute totalement ce système. Il y a aujourd'hui 71 milliards de réserves dans l'Agirc-Arrco. Il y a pratiquement le double si on rend l'ensemble des régimes. Pourquoi ? Parce que justement, les partenaires sociaux qui gèrent les régimes de retraite, ils ont été prudents, ils ont été intelligents, ils ont été responsables et ils ont anticipé l'évolution des cohortes démographiques. Parce que dire qu'on va mettre les comptes de la retraite à l'équilibre, ça n'a strictement aucun sens.
Donc c'est un hold-up cette réforme.
Bien sûr, il y a d'une certaine façon un hold-up qui est fait sur 320 milliards d'euros qui sont les prestations de retraite versées chaque année en France, qui représentent une masse financière énorme et sur lequel l'État aujourd'hui veut mettre la main pour pouvoir le gérer. Et moi j'ai les plus grosses inquiétudes que cette gestion nous emmène dans le mur sur tout un tas de paramètres.
Oui, parce que les paramètres, en plus, c'est l'État qui va le décider. Est-ce qu'il y a vraiment cette logique-là, vous pensez ? De mettre la main, justement, sur une logique financière et budgétaire.
Tout nous le prouve. Toutes les réformes qui sont faites sur ce plan-là depuis 2 ans, et même avant, consistent à renforcer toujours plus le pouvoir de Bercy sur tous les dispositifs financiers mutualisés dans lesquels aujourd'hui intervenaient les partenaires sociaux. Ça, c'est très clair. Les partenaires sociaux, dans leur capacité à agir, à intervenir dans les régimes sociaux, sont expulsés de plus en plus par des hauts fonctionnaires de Bercy, par la sphère politique restreinte qui aujourd'hui gouverne à tout en France.
Est-ce que la nomination d'un Jean-Paul Delevoye comme ministre, on doit l'attendre, enfin normalement, est-ce que ça peut, y a de quoi vous rasséréner ?
Pourquoi pas ? Ceci dit, si c'est un canard sans tête dans le gouvernement, ça n'aura pas beaucoup plus d'intérêt. Jean-Paul Delevoye, visiblement, il en a pas mal bavé dans sa mission avec le gouvernement actuel, avec le président de la République, qui, on le voit bien, fait des déclarations qui vont contre ses conclusions et contre ses engagements. Donc moi, personnellement, ça me va bien. On a de très bons rapports avec Jean-Paul Delevoye, qui est une personnalité politique que nous connaissons bien et qui est plutôt respectueuse des partenaires sociaux. Donc, pour finir, à répondre précisément à votre question, si Jean-Paul Delevoye emporte avec lui la culture sociale dont il a su faire preuve par le passé dans un gouvernement qui en est sévèrement dépourvu, ça sera plutôt une bonne chose.
Et bien voilà, comme ça c'est dit. Merci. Merci François Omri, le président de la CFE. CGC, dans un instant, je recevrai Hervé Monjotin. C'est le patron d'une belle ETI française. Il a décidé d'aller aux États-Unis. Il nous dira pourquoi, si c'est pas un peu risqué, dans ce climat géopolitique un peu particulier.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
C'est une belle réussite à la française, une belle ETI. Hervé Monjotin, bonjour.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être là. Vous êtes le patron de Socotec. Socotec, c'est le leader français de la certification de bâtiments. Vous allez nous expliquer dans un instant plus précisément ce que c'est. Mais si je vous ai demandé d'être là, c'est qu'en fait, vous avez annoncé ce matin une très belle acquisition, en l'occurrence, aux États-Unis. Donc, vous vous renforcez aux États-Unis. C'est dans ce climat un peu particulier entre les États-Unis et le reste du monde, l'Europe et la France. Est-ce que c'est pas un peu risqué d'être un Frenchie là-bas ?
Alors, ce qui serait surtout risqué pour Socotec, c'est de ne pas aller de l'avant. Ce matin, on a annoncé une très grosse acquisition à notre échelle et qui est une étape marquante dans la vie de l'entreprise. Donc, on est effectivement heureux et fiers de partager ce moment avec nos équipes d'abord et puis nos différentes parties prenantes. Peut-être avant de revenir sur le sujet États-Unis, je vous redonne la photo complète de ce qu'est Socotec rapidement.
Oui, absolument. Juste, vous n'êtes pas dit. Quand vous avez signé là en bas de l'accord, vous n'êtes pas dit qui risque quand même, géopolitique.
Non, parce que nos opérations sont locales, donc on connaît la profondeur, le dynamisme de l'économie américaine. Le seul sujet, c'est le cycle aux États-Unis, ça on peut en parler, mais absolument pas un problème de relation entre l'Europe et les États-Unis. C'est pas dans notre radar, ça.
D'accord, ok,
ça n'existe pas, mais ça n'a pas d'impact.
Socotec, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas.
Alors, Socotec, rapidement, c'est 8 000 personnes, Socotec, des ingénieurs, des techniciens, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. En gros, 60% de notre activité en France, 40% plus récemment développée hors de France. On opère dans 25 pays. Nos grands pays après la France, c'est la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie. Notre métier à la base, c'est la conformité, la conformité réglementaire de tout ce qui se construit, s'exploite, se décommissionne. Ça, c'est pour ça. Par exemple, un bâtiment qui se construit. Je pense au TGI de Paris. Je pense au centre commercial de la Gaîté Montparnasse ou la rénovation de la Part-Dieu à Lyon. Ce Socotec intervient sur des prestations de ce qu'on appelle contrôle technique construction. C'est-à-dire qu'on est là pour garantir au maître d'ouvrage que ce qui se construit est conforme à la réglementation et performant. Même chose sur tout ce qui est lié à la sécurité sur les chantiers. Ça, c'est vraiment le métier historique de Socotec. Les gens nous connaissent d'ailleurs, on est pas mal là-dessus. On est assez connus parce qu'on est visible sur les panneaux de chantier, ouais, etc. Probablement, le nom Socotec vous disait quelque chose.
Bien sûr.
On opère aussi dans tout ce qui est inspection réglementaire, des équipements électriques, toujours par rapport à des problématiques assurantielles. Mm-hmm. Ça, c'est le métier historique de Socotec en France, société créée dans les années 50, une société d'ingénieurs français avec toute la force de ce que cela comporte. Et à partir de cette position, on a construit un savoir-faire, une expertise qui nous permet d'apporter du service en assistance technique et en management des risques, en fait. Le métier de Socotec, c'est d'être le garant, en tant qu'acteur tierce partie, de la prévention des risques associés à la construction, à l'exploitation des infrastructures et au décommissioning. C'est pour cela, quand j'ai repris la tête de cette entreprise il y a 3 ans, pile, en fait, j'ai réaffirmé finalement...
Vous étiez avant...
Avant Socotec, j'ai passé 20 ans dans une formidable aventure entrepreneuriale, Norbert Entresangles.
Voilà, c'est ça. Oui.
Voilà, et j'en étais le CEO sur les 4 dernières années, et donc j'ai été amené à opérer pas mal aux États-Unis pour acquérir des entreprises et aussi pour participer
belle
à la vente de Norbert
Entresangles. Ouais.
Une belle aventure, mais l'aventure Socotec est aussi formidable. Et si vous voulez, quand j'ai repris la tête de cette entreprise, notre chiffre d'affaires était 500 millions d'euros. On opérait à 90% en France, donc une très belle entreprise française, mais un peu trop centrée sur son marché historique. Et en 3 ans, on a amené cette entreprise de 500 à 800 millions. On l'a projetée en Europe grâce à
l'acquisition.
Ouais, l'acquisition américaine, c'est la 18e, vous voyez, donc on a été très, très dynamique. Mais toujours avec la même idée, qui consiste à avoir des plateformes dans les pays qu'on a choisis. Et clairement, les États-Unis font partie des pays que l'on commençait à cibler. Parce que la grande aventure pour les 4 prochaines années, puisque on projette notre entreprise à horizon 2024, c'est d'emmener Socotec au-delà de l'Europe, et pour installer Socotec comme leader mondial, n'ayons pas peur des mots, dans notre industrie qui est celle du test, de l'inspection, de la certification, mais avec un positionnement très spécifique qui est d'être le garant de l'intégrité des actifs, c'est-à-dire le garant de la sécurité de tout système.
Votre concurrent, parce qu'il y a un autre champion français, c'est Veritas, en fait.
Oui, alors Veritas est une entreprise beaucoup plus grande que Socotec, mmh, mais de taille comparable sur le segment qui nous intéresse. Là, ce qui nous différencie, c'est que nous, on est très concentrés sur la construction et les infrastructures.
Je recevais Julien Normandie, que vous devez connaître, bien sûr.
Absolument.
Le ministre délégué en charge du logement, c'était jeudi dernier. Il disait, mais moi, on a fait un choix politique de diminuer par 2, par 4 même le code de construction, le code de l'immobilier. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit 1 page sur 4, en fait. C'est comme si on supprimait 1 page sur 4. Alors, en termes de normes et d'obligations.
La volonté, en particulier telle qu'elle s'inscrit dans la loi ESSOC, on pourra en dire un mot si ça vous intéresse, elle est là. Je pense qu'avant que ça se matérialise, ça va prendre pas mal de temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est en train de passer d'une approche, on va dire progressivement, qui consiste à juste à demander aux maîtres d'ouvrage de prendre des engagements de moyens pour aller vers quelque chose qui consiste plus à aller vers des engagements de performance. Mm-hmm. Et nous, acteurs du contrôle tierce partie, on a toute notre place dans ce chemin. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que ce que font nos amis américains, je vais peut-être dire un mot sur l'entreprise qu'on a rachetée, est clairement dans ce registre performantiel.
D'accord, ok, comme ça, c'est toujours intéressant de demander à des gens qui sont des vrais opérateurs ce qu'ils pensent des réformes, et en l'occurrence de l'action qui conduit.
Ce qui est certain, c'est que l'impulsion, elle est là, mais ça, c'est si vous voulez, il n'y a pas de grand soir, c'est de multiples petits pas, et donc nous, on s'inscrit dans cette dynamique. En tout cas,
l'acquisition donc de Vidaris, aux États-Unis, qui va vous donner un vrai tremplin, en l'occurrence, c'est 100 millions d'euros,
c'est 100 millions de dollars de chiffre d'affaires,
100 millions de dollars, oui.
Un peu plus de 300 collaborateurs. Une grosse base à New York, c'est 40, ouais, la moitié de l'ensemble, on va dire, puisque cette entreprise, elle s'est construite dans la complexité des buildings new-yorkais, vous voyez, avec un savoir-faire autour de ce qu'ils appellent le
donc
building envelope.
900 millions de chiffre d'affaires, c'est ça votre ambition en tel cas?
Voilà, alors avec l'acquisition américaine, Socotec va avoir une taille de l'ordre de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, si on prend les chiffres pro forma, et on veut amener Socotec de cette taille-là à 1,4 milliard à horizon 2024, toujours avec cette concentration sur la construction, les infrastructures, dans l'industrie du test, de l'inspection, de la certification, et donc un positionnement de marché qui nous sera tout à fait, enfin qui est très spécifique en fait.
Vous n'avez pas de problème de recrutement ?
Si, bien sûr.
On en parlait justement avec François Omri de la CFE-CGC. C'est vrai que les cadres, tout le monde les recherche et il y a un vrai problème de recrutement.
Voilà, alors d'autant plus en France qu'il y a tout l'appel d'air du Grand Paris en fait, qui nous donne, des opportunités business, mais qui amène aussi une tension sur la ressource. Oui, on est, de ce point de vue-là, on est la plupart des acteurs de cette filière. On est confronté à un manque de techniciens et d'ingénieurs. Nous avons nos armes. Le projet tel que je le présente, c'est une arme formidable parce que finalement, cette aventure Socotec est aussi un élément d'attraction pour ceux qui nous rejoignent, mais ça fait partie, enfin là, le recrutement est un élément clé de la performance de Socotec.
Essentiellement des Français ?
Non, aujourd'hui, alors on recrute beaucoup de Français évidemment, parce que la France est encore 60% de l'ensemble, enfin après l'acquisition américaine c'est plutôt 50%, mais on est présent en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, donc c'est cette problématique-là, elle est présente dans beaucoup de pays, alors de manière encore plus marquée en Allemagne. Où il y a vraiment un problème.
Une pénurie.
Une pénurie d'ingénieurs. Ça, c'est très, très net. Je dirais, en France, on a la chance d'avoir des écoles d'ingénieurs de grande qualité, premier rang de différents niveaux, mais elles sont toutes de grande qualité. Et la différence se fait par le projet, en fait. La capacité que vous avez à proposer quelque chose qui embarque vos équipes. C'est vraiment ça qui est au cœur, si vous voulez, aussi de cette aventure Socotec. Parce que ce que j'ai plaisir à partager avec vous, c'est Socotec, c'est une très belle ETI française, généralement très connue au-delà au-delà de son audience naturelle qui est celle de la construction et des infrastructures. Et on est en train d'amener cette belle ETI française qui était peut-être un peu à l'arrêt depuis quelques années, en train de la transformer très fortement et de l'amener à rayonner à une échelle beaucoup plus large.
Hervé Mongeotin, qui finance ? Comment vous financez cette acquisition et ces acquisitions ? Parce que toujours un peu le problème, lorsqu'on discute à l'échelle d'entreprise, ils vous disent, où est-ce qu'on trouve le nerf de la guerre ?
Ouais, d'autant plus que l'acquisition américaine, elle est structurante aussi parce que la société qu'on achète est très profitable. Donc vous imaginez que
vous avez payé combien ?
C'est pas quelque chose que j'ai disclosé selon l'expression financière.
C'est pas parce que vous l'avez.
Mais non, j'ai pas envie
Pourquoi
de faire. Parce que ça n'a pas d'intérêt pour nous et ça même quelques inconvénients.
Pas d'intérêt le prix d'acquisition d'une grosse entreprise.
Par contre, c'est que c'est la manière dont on finance. Donc la manière dont on finance, c'est de faire appel au financement par la dette. Donc nous, on a un ratio d'endettement qui est aujourd'hui autour de 5, qui est relativement agressif, mais tenable au regard de la récurrence de notre revenu et de nos marges. Mmh. Et puis notre actionnaire majoritaire, c'est là où je voulais en venir, a remis des capitaux.
Qui est
Cobepa. Oui. Cobepa, c'est une société d'investissement basée en Belgique. On est dans le monde du LBO. Mmh. Et Cobepa s'inscrit. C'est un autre. Mais on est dans ce monde-là, on va dire, du capitalisme belge. Et Cobepa s'inscrit à nos côtés dans l'ambition 2024. Donc, amener Socotec à être ce leader mondial dans la construction, les infrastructures. Et à marquer son engagement en nous accompagnant sur cette acquisition américaine, en particulier à travers l'investissement en fonds propres. Qui a été le leur.
Et votre objectif, c'est quoi en conclusion ? C'est d'être coté ? C'est de coté à New York ? C'est de coté. C'est quoi ?
Notre objectif.
Vous revenez nous voir dans 5 ans, vous êtes 1,4 milliard, d'accord ?
D'accord. Si vous m'invitez avant 5 ans, j'aurai plaisir à vous raconter la belle histoire Socotec, parce que je pense qu'elle mérite d'être un peu plus connue.
C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir ici dans l'orage.
Notre objectif, c'est vraiment de bâtir ce leader très spécifique dans notre industrie. Qu'est-ce que ça signifiera en termes de structure financière après-demain ? Parce que reconnaissez avec moi que 2024, c'est quand même pas tout de suite. Mmh. Oui, ça peut être une introduction en bourse, pourquoi pas. On verra. Mais ce que je sais, c'est que si Socotec continue à aller de l'avant à ce rythme-là, les options qui s'offriront à nous, à tout point de vue, seront extrêmement larges.
Merci beaucoup. Ça fait du bien d'avoir un témoignage d'une grosse et belle ETI qui se développe. Merci beaucoup, Hervé.
Merci à vous
d'avoir été avec nous. Donc le patron de Socotec qui met un gros pas, un gros pied aux États-Unis. Dans un instant, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui sera avec nous. Lui, il conseille aussi des entreprises. On essaiera de comprendre un petit peu, de voir son analyse géopolitique de tout ce qui se passe. Et puis, on reviendra plus particulièrement sur le Brexit et sur l'Allemagne. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Il s'est installé, il est avec nous, Hubert Védrine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, ancien ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de questions à vous poser, mais pour l'instant, place à l'actualité, au rappel des titres avec Julien Rizot.
Une rentrée parlementaire sous haute tension à Londres. L'opposition travailliste, alliée à une vingtaine de frondeurs conservateurs, vont déposer une proposition de loi visant à interdire un Brexit sans accord. Cette loi obligera Boris Johnson à demander un report du Brexit, ce qu'il refuse. Le Premier ministre demandera la tenue d'élections anticipées si la Chambre des communes lui force la main. Des élections qui se dérouleront alors le 14 octobre prochain. À noter que la situation politique a joué ce matin sur la livre. La monnaie est tombée brièvement sous le seuil d'1,20 $ pour la première fois depuis janvier 2017. De son côté, Bercy sensibilise les entreprises à un Brexit dur. Le ministère organise à 16h une réunion avec les confédérations professionnelles pour les préparer à cette éventualité. Le gouvernement s'inquiète du manque de préparation des sociétés exportatrices au Royaume-Uni. Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, était sur BFM Business ce matin. Elle incite les entreprises à déclarer leurs marchandises en amont de leur déplacement pour passer plus vite à la frontière. Et puis un bénéfice net en baisse de 60% au premier semestre pour Iliad, la maison mère de Free. L'opérateur a perdu sur la période près de 130 000 abonnés mobiles en France. En Italie, Iliad continue sur sa lancée avec près de 3,8 millions d'abonnés recrutés au 30 juin. Le titre perd actuellement en bourse près de 4%. Le CAC à la mi-journée perd près de 0,5%, 0,48% à 5400 points et puis l'euro à 5460 points et puis pour l'euro dollar, 1 euro s'échange 1,09 $.
Merci Julien, à suivre Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, à tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité Hubert Védrine, merci d'être avec nous. Je le rappelle, ancien ministre des Affaires étrangères. On a besoin de votre analyse. C'est vrai qu'on a quand même un spectacle géopolitique qui est quand même assez impressionnant lorsqu'on regarde ce qui se passe. Le Brexit, l'Allemagne, l'Italie, même l'Espagne, l'Iran, les États-Unis, le Brésil, de nouveau un peu ce qui se passe en Israël. On se dit qu'on est vraiment dans une période extrêmement compliquée avec beaucoup d'incertitudes que détestent les milieux économiques que vous connaissez bien, Hubert Védrine. Juste peut-être un mot sur ce qui se passe aujourd'hui même au Parlement britannique. C'est un coup d'éclat, un coup de force, c'est quoi ?
Écoutez, on ne va pas se lancer dans les péripéties sur le Brexit, on n'en sait rien, vous n'en savez rien, je n'en sais rien, ils n'en savent rien.
Oui, c'est surtout eux qui n'en savent rien. Bon. Oui,
donc on peut dire que c'est regrettable. Je pense qu'on aurait pu se comporter plus intelligemment du côté européen dans les années qui ont précédé le référendum, et que les Anglais auraient...
En faisant quoi ?
En répondant en partie plus intelligemment à certaines des demandes britanniques pour désamorcer la contestation. Je pense que les Anglais auraient pu être moins irréfléchis, que Cameron a pris trop de risques, etc. Bon, ça c'est le passé. C'est l'avenir qui est important, parce qu'on n'en sait rien sur ce qui va se passer. Mais une fois que le Brexit aura eu lieu, s'il n'a pas lieu, ça change tout le raisonnement, ne commentons pas. S'il a lieu quand même, la vraie question, c'est est-ce que la Grande-Bretagne entre dans une sorte de phase finale de déclin au terme de laquelle il n'y aura plus de Royaume-Uni, puisque l'Écosse sortira, etc. Ça change tout, et c'est fascinant à voir, puisque ce pays, la Grande-Bretagne, a conduit l'Empire britannique de 1850 à 1914. Ou alors... Autre hypothèse, mais j'en sais rien, je n'annonce pas ça. Si jamais les Anglais, qui ont quand même un ressort historique exceptionnel, s'en sortent, qu'ils arrivent à remonter la pente, à créer quelque chose de différent, alors là, c'est plusieurs années après, hein, il faut vraiment que l'Union européenne, entre-temps, ait réussi à corriger suffisamment son fonctionnement pour répondre aux demandes des peuples, qui veulent garder un peu d'identité, de souveraineté, etc., avoir la sécurité, la maîtrise des migrations, plus des projets d'avenir. Bon, il faut que l'Union européenne puisse supporter à ce moment-là le choc de la comparaison. Rappelez-vous la trouille terrible qui a saisi tout le système européen quand il y a eu la décision de Brexit. Maintenant, ils sont rassurés parce que c'est un tel chaos, ça va être tellement compliqué, tellement épouvantable pour tout le monde pendant très longtemps, que le système européen s'est rassuré. Mais à mon avis, ça ne suffit pas. Donc il faut envisager, il faut se projeter dans l'avenir et se dire dans 5-6 ans, si la Grande-Bretagne est devenue une alternative en quelque sorte, alors là il faut vraiment que les peuples européens soient convaincus que l'Union est une meilleure réponse. Ouais. Donc il ne faut pas arrêter la réflexion, Brexit ou pas, il ne faut pas arrêter la réflexion sur...
Au contraire presque, d'après ce que
qu'est-ce qui pourrait faire réadhérer les peuples d'Europe au projet européen.
Oui, c'est toute la difficulté, et puis la difficulté de cette nouvelle Commission européenne là, qui est en train de se constituer. C'est des défis très particuliers parce
c'est
que
pas
là...
Que la Commission, c'est une responsabilité des dirigeants de tous les pays, commencer par les dirigeants allemands, français, etc., la Commission, le Parlement, enfin, c'est l'ensemble des dirigeants en Europe ou de l'Europe qui ne doivent pas considérer que, ça y est, les peuples sont réconciliés avec le projet européen. Ce n'est pas tout à fait vrai.
Non, moi qu'on puisse dire. On est presque dans une Europe façon puzzle, comme diraient les tontons flingueurs, en l'occurrence pour ceux qui ont cette culture cinématographique. Je m'explique. L'Italie, on voit bien que c'est un peu le chaos politique, même si la situation peut s'éclaircir, en l'occurrence. En Espagne, c'est très, très fragile.
Il y a un problème qui n'est pas que européen. Il y a une vraie crise des démocraties représentatives.
Ouais, des démocraties occidentales, mais enfin, occidentales. Qui constituent le noyau dur quand même de l'Union européenne, on peut dire ça.
Oui.
Comme ça. Donc, quel projet, à votre avis, il faut essayer de trouver quelle voie
pour l'Europe?
Oui.
Je ne peux pas répondre sur l'Italie en particulier.
Non, sur l'Europe.
Les démocraties représentatives sont terriblement contestées par la démocratie directe. Parce qu'il y a des populations très informées, qui ont le temps, Internet et compagnie, donc ils veulent sans arrêt intervenir. L'idée qu'on confie un mandat à un président, un gouvernement, un chancelier, et on le laisse travailler...
C'est insupportable.
On juge au résultat, ça ne va pas. Mm. Donc les gens, 8 jours après, sont mécontents, veulent réintervenir. C'est très, très, très compliqué de gouverner les démocraties occidentales. Et je plaide, moi, pour une certaine empathie de la part des commentateurs par rapport à ça. Bon, il faut répondre, mais passer à la démocratie directe, dans lequel, tous les jours, sur un engin comme ça, on vous demande tous les matins si vous voulez rétablir ou non la peine de mort, abolir les impôts, multiplier par 10 le budget des hôpitaux, etc. etc. Ça aboutit à un chaos absolu, c'est ingouvernable. Ça serait la dictature de tous sur chacun. Donc il faut absolument qu'il y ait une réponse articulée, de démocratie plus participative, d'accord ? Mais à la fin des fins, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide quelque chose.
Oui, c'est...
Donc ça, c'est l'énorme enjeu, indépendamment du projet de l'Union européenne. Mm-hmm. Et ça se pose en Australie, ça se pose aux États-Unis sous une autre forme.
Dans toutes les démocraties.
Alors évidemment, ça traverse, ça s'ajoute aux questions spécifiquement européennes. Mais la réponse est possible. Il faut trouver les bonnes réponses. Mais on ne peut pas revenir à la démocratie représentative classique inventée il y a 2 siècles. Ça ne peut pas être que ça. Et on ne peut pas être dans le participatif 100% 24 heures sur 24.
Lorsque
l'enjeu.
Oui, bien sûr. C'est ce qui va dans votre sens, c'est qu'on voit bien la difficulté. C'est ce qui s'est passé aux élections en Saxe et à Brandebourg, en Allemagne, en l'occurrence, où on voit la poussée de l'AFD.
Oui, mais ça, c'est très lié à l'idée qui est forte dans une forte minorité des opinions européennes, que l'Union européenne est incapable de contrôler les flux migratoires.
Oui, d'accord, mais du coup, on a une poussée quand même, un appel presque à des régimes durs. On voit ce qui se passe en Italie, on a l'impression de s'en retrouver quelques années en arrière quand même.
Il y avait des partis communistes très puissants, au-delà de 30%. Aujourd'hui, ils font à peine 2. Bon, au-delà de 30%, en France, en Italie, ils étaient vraiment staliniens. Et quand ils étaient staliniens, ils faisaient plus de 30%.
Bon. Ouais.
Alors, il y a quand même une partie de la population qui, toujours, quel que soit son vote, n'a pas adhéré complètement au système démocratique central, quoi. Centre-gauche, centre-droit. Il y a des réponses possibles à la question de la maîtrise des flux migratoires. Il faut vraiment préserver le droit d'asile, après l'avoir redéfini, puisqu'il est quand même massivement détourné aujourd'hui. Il faut préserver le cœur. Et après, il faudra gérer les flux migratoires qui seront permanents. Il y en aura tout le temps, dans le monde entier, avec les pays de départ et de transit. Ma remarque s'appliquerait aussi bien à la Côte d'Ivoire, qui est... Tous les voisins veulent y aller, à l'Afrique du Sud, au Nigeria, à l'Australie, au Canada, etc. Mmh. Mais c'est pas impossible. On peut trouver des réponses, en fait. Et donc ça ferait tomber, en plus si on change de ton, si on accepte un peu que les peuples veulent garder une certaine identité sans que ce soit tragique, bon, on fait baisser le populisme de moitié, à mon avis, si on faisait ça.
Hubert Védrine, est-ce que c'est une... D'abord, vous avez été Sherpa, conseiller diplomatique de François Mitterrand, donc ministre des Affaires étrangères. Le G7, c'est une vraie réussite française, une vraie réussite personnelle pour le président Macron, ou pas?
Ah oui, le président s'en est très 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 bien sorti. Hein.
Oui.
Je crois qu'on n'inventerait pas le G7 aujourd'hui. À l'origine, c'est les grands pays industrialisés. Ah. Ce n'est pas les démocraties. Hein, les
gens c'est Giscard d'Estaing.
Oui, Giscard et Schmitt.
Oui.
Oui, mais les commentateurs disent les démocraties, ce qui mélange tout le monde. Mm. On ne le réinventerait pas sous cette forme. Et puis d'autre part, il y a le G20. Mais puisque ça existe, bon, quand un pays a la présidence à son tour, la question c'est qu'est-ce que je vais en faire? En plus, ça part dans tous les sens, on va le parler de tout. Les antimondialistes font comme si c'était un lieu où on décide des choses terribles parce que ça leur donne une occasion de se rassembler. En fait, non, c'est un échange. Bon.
Alors,
donc,
oui.
Compte tenu de ça, il a vraiment très, très, très bien géré, pas que le G7, la séquence Poutine avant,
Oui.
Que la Russie n'est plus dans le G8, donc redevenue G7. Mmh, mmh. La séquence G7, la mise en cause de la guerre des forêts, qui était un peu exagérée, mais enfin, c'est bien d'attirer l'attention sur le sujet, et l'Iran. Donc oui, c'était très très bien géré.
Et alors sur l'Iran, parce que sur l'Iran justement c'était ma question aussi derrière, c'est sur l'Iran là il y a eu des négociations secrètes, il y a un négociateur qui est en ce moment même à Paris pour négocier parce que la France et l'Allemagne sont en pointe hein, justement les Européens. Mais est-ce que il n'y a pas un risque pour la France de se mettre en avant d'une manière si forte sur ce dossier iranien où on voit bien que même les Iraniens ne veulent pas négocier, en tous les cas pas question d'avoir des discussions bilatérales avec les États-Unis. Donc c'est un dossier à haut risque, j'ai envie de dire, les Européens ont presque tout à perdre. Hein.
Le risque principal, c'est de ne rien faire. C'est le statu quo. Mmh. C'est de faire comme ce qui s'était passé depuis une dizaine d'années, que la France devienne malheureusement une sorte de pays occidental comme un autre, quoi. Nouillé dans la masse, répétant comme un perroquet les arguments des autres occidentaux, sans aucune prise sur rien. Rien. On prend des positions éthiques, abstraites, morales, très bien, mais c'est des positions. Après, on mène des guerres de positions, des guerres de tranchées, qui conduisent à rien. On le voit sur la Russie. Donc c'est ça le risque numéro un. Tout ça dans un contexte où les occidentaux ont perdu le monopole du pouvoir dans le monde, où les Européens sont eux-mêmes quand même contestés de partout. Donc c'est ça le risque. C'est pas le fait de tenter quelque chose. Donc il n'y a aucun risque à tenter quelque chose pour rétablir des relations très prudentes, mais réalistes avec la Russie, pour tenter de débloquer la question iranienne. Mais la question iranienne, il n'y a aucun risque à tenter. En revanche, ça peut marcher uniquement sur ce qui s'est passé.
Mais si ce n'est qu'à se ridiculiser et à montrer que Trump a démontré une fois de plus que Trump.
Non. Ce qui est ridicule, c'est de ne rien faire.
D'accord.
Donc le vrai risque, c'est qu'il n'y ait pas de répondant du côté Iran. Mais si ce que la France a monté, président Macron, son conseiller diplomatique, qui a été à Téhéran avant, les discussions qui ont lieu en ce moment, si ça redonne un peu de force aux modérés en Iran, qui à cause de Trump ont été battus, puisque maintenant les extrémistes en Iran disent, vous voyez, on a eu tort de croire dans Obama, dans les Européens, qui sont incapables, Donc si ça redonne de la force aux modérés en Iran, le président Rouhani et ses équipes, qui disent, bon, ça vaut le coup, on va rediscuter, peut-être même des éléments complémentaires de l'accord qu'on avait signé à l'époque d'Obama. Là, la France aurait joué un rôle de déblocage formidable. Si ça ne marche pas, c'est bien dommage, mais ce n'est pas ridicule. Donc il faut tenter des choses comme ça. La guerre de tranchées ne marche pas dans les situations dans lesquelles on est. Vous voyez ? Donc j'approuve entièrement, moi, ces tentatives. Je ne sais pas si ça va marcher. Et Trump, il a vu que grâce à l'habileté quand même du président, et on comprend mieux l'utilité de l'opération séduction qu'il avait tentée au début, les gens rigolaient un peu, mais il a quand même une relation avec Trump, alors c'est quand même très difficile.
Et c'est un peu compliqué, on va dire, oui.
Que personne d'autre n'a, apparemment. Mmh. Alors, ça ne fait pas changer Trump de position, mais Trump n'a pas tout cassé parce que le ministre iranien est venu en marge du sommet, à Biarritz, voir Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian.
Il est au courant.
Juste avant, mais il n'a pas tout cassé. Ouais. Et puis moi, j'ai fait ça, j'étais pas d'accord.
Il est reparti, et pour l'instant, on n'a pas eu de tweet vengeur.
Non, mais il aurait pu repartir au milieu.
Oui, bien sûr.
C'était bien joué. Alors, en fait, en plus, Trump ne veut pas la guerre avec l'Iran. Ça ne l'intéresse pas. Il veut, contrairement aux bellicistes américains, les néoconservateurs ou les démocrates idéalistes, ils ne veulent pas imposer la démocratie par la guerre partout. Ce n'est pas son truc.
Non, la seule chose, quand même, c'est qu'il laisse la place complètement aux Chinois, hein, qui, du coup, sur le plan économique, prennent la place des Peugeot, des Total et d'autres grandes entreprises occidentales.
C'est un argument utile à utiliser parce que c'est incohérent dans sa démarche. Nous parlions du fait de savoir si la France pouvait enclencher quelque chose qui permettrait aux Iraniens, un modéré réaliste, de reprendre la main, de donner des éléments qui seraient utilisables, où on dirait aux Américains, vous voyez, on a quand même obtenu quelque chose. Ça vaut le coup d'être tenté, c'est ça la politique étrangère. C'est pas se gargariser toute la journée avec nos valeurs universelles.
Ouais. Ah, tiens, à propos c'est de ça, oui, la alors, politique. Oui, mais alors justement, à propos de valeurs universelles, parce que le président, au G7, dans sa conférence de clôture, il a dit, la France, à vocation, n'est pas un pays, c'est ce qui fait sa force et peut-être le succès de ce G7, c'est que la France n'est pas un pays aligné. C'est un pays qui discute avec tout le monde. C'est une bonne définition de ce qu'est ou ce que doit être la France.
Il me semble qu'il essaie de revenir aux fondamentaux de la politique étrangère de la Ve République, de De Gaulle à Mitterrand et Chirac, qui était résumée par une formule concernant les États-Unis. Nous sommes amis, nous sommes alliés, mais nous ne sommes pas alignés.
Oui.
Ça ne veut pas dire qu'on va nuire à leurs intérêts, ni faire le contraire. Moi, j'approuve entièrement cette définition. Simplement, dans la mise en œuvre, c'est toujours un peu compliqué, parce que les États-Unis considèrent que les alliés doivent être alignés. Bon, alors quand on dit on est allié mais pas aligné, à l'est, au sud et compagnie, il faut démontrer au cas par cas que c'est utile, il faut que l'opinion comprenne, il faut que les commentateurs analysent intelligemment, d'autant qu'on était plutôt parti dans l'autre sens depuis quelques années. Donc c'est très bien de retenter ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un pays hors sol. Hein.
Ouais. L'autre phrase valeurs, très forte qu'il a, l'autre phrase intéressante qu'il a prononcée devant la conférence des ambassadeurs, je ne sais pas si vous étiez présent ou pas, il a parlé de l'État profond, c'est-à-dire cette espèce d'État de bureaucratie, technocratie qui bloque, notamment en termes de politique étrangère, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais même d'une manière plus générale, qui bloque les réformes, qui bloque le pays. Vous partagez ce sentiment d'État profond?
C'est une expression qui a été employée, je crois, dans les Pentagon Papers, qui concerne d'abord et avant tout les États-Unis. Certains ont été choqués parce qu'on l'appliquait à la Turquie. Et ça concerne tout à fait la grande démocratie que sont les États-Unis. On peut dire ça quand le Pentagone, le Département d'État, le Conseil de sécurité, la CIA, les 15 agences, etc., ont un point de vue qui fait que quoi que le président dise, il continue. Ouais. Quoi.
Ça peut être parfois utile en ce moment, par exemple. Enfin, ça, c'est autre chose.
Oui, c'est autre chose. Mais en tout cas, évidemment, un président, à un moment donné, quel qu'il soit, en France ou ailleurs, il dit, c'est quand même moi le patron par rapport à ça. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. S'il a estimé...
Mais en France, il y a un état profond, la diplomatie. Il y a une diplomatie profonde qui empêche un peu...
Mais ça ne concerne pas que la diplomatie. Ça
oui, non, mais je sais, mais je vous pose la question...
De la défense aussi.
Oui, bien sûr.
De Bercy.
Oui, mais comme vous avez été ministre des Affaires étrangères...
Sujet.
Bercy, c'est une évidence.
Il peut y avoir à certains moments, pas sur tous les sujets, mais une sorte de consensus sur une ligne. Et quand après, vous imaginez que quand De Gaulle a lancé des initiatives, l'administration française suivait comme un seul homme, même avec De Gaulle. Ou avec Mitterrand. Donc il y a un moment donné où... Bon, c'est pas des gens qui complotent, mais il y a un phénomène de force d'inertie, peut-être.
Donc il y a un état profond.
Mais il me semble, dans l'argumentation du président récente sur la Russie, c'est tellement vrai que c'est idiot d'avoir des rapports avec la Russie plus mauvais qu'avec l'URSS. C'est tellement vrai que c'est notre intérêt de bouger à condition d'être très 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 prudent par rapport à la Russie, que... Même les gens qui bougeaient pas trop peuvent tout à fait être entraînés par cette tentative... C'est une tentative.
En même temps, on voit bien que quand vous êtes face à des personnalités style Donald Trump, voire Vladimir Poutine, les rapports de force...
C'est pas l'état profond interne, c'est autre chose.
Non, ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, il faut avoir des rapports de force, il faut avoir une position extrêmement ferme face à des personnalités comme celle-là, on va dire.
Attendez, quand Nixon et Kissinger et les autres après ont négocié avec l'URSS, l'URSS était beaucoup plus puissante que la Russie d'aujourd'hui, beaucoup plus menaçante. Elle avait un arsenal nucléaire 2 ou 3 fois plus gros. Elle avait des forces conventionnelles en Europe gigantesques, elle s'ingérait tout le temps. Les batailles d'espions, les trucs, c'est tout le temps. Ils ont quand même négocié, non pas parce que c'était des agneaux, pas pour avoir des souris en face, c'était l'intérêt. Et donc là, c'est évidemment notre intérêt, je crois, dans la position compliquée où on est dans le monde.
De rétablir des liens, en tous les cas, et de montrer...
Enfin, de renégocier, de rediscuter, etc. Et avec vigilance.
Hubert Védrine, je le disais en introduction, vous conseillez, vous travaillez avec de nombreuses entreprises, vous êtes membre de conseil d'administration éminent. On voit bien que le risque géopolitique, c'est ce qui fait le plus peur aujourd'hui au chef d'entreprise. Alors, ce qu'on vous dit, c'est la crise financière, c'est la réforme des retraites, c'est arrivé. Non, non. Pour nous, c'est l'incertitude, c'est les risques géopolitiques. Vous leur répondez quoi à ceux qui vous écoutent en ce moment?
Ça dépend de la question, ça dépend de qui pose la question, ça dépend du sujet, ça dépend du pays. La réponse n'est pas la même. Bon, en plus, les entreprises sont également préoccupées par la fuite en avant globale, mondiale, dans l'endettement sans fin. Bon,
les risques géopolitiques, c'est vraiment un risque.
Elles sont préoccupées par tout le mouvement du politiquement correct, peu de choses comme ça. Il y a beaucoup de sujets.
Non, d'accord, mais on va rester focalisé, si vous voulez bien, sur la géopolitique.
Mais non, c'est pas la géopolitique en général. La question qui se pose, c'est comment ça va tourner entre les États-Unis et la Chine, par exemple. Ça, c'est une question dominante, vous voyez. Et là, ça dépend de quelle entreprise pour la question. C'est quand même, d'abord, chaque entreprise a des gens remarquables, a sa propre analyse, mais certains, il y a des grands doutes avant des grandes décisions par rapport à ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise, est-ce qu'il faut aller en Chine? Tout à l'heure, je recevais chez l'entreprise qui fait une grosse acquisition pour sa taille aux États-Unis. C'est vrai que ma première question,
Edouard, on ne peut pas répondre de façon aussi abstraite. C'est quelle entreprise, dans quel domaine, à quel moment, ça dépend où en est la Chine, etc. C'est devenu de plus en plus dur. Les Chinois défendent leurs intérêts, comme l'on sait. C'est très compliqué de l'aller en Chine, de s'en sortir dans de bonnes conditions. Comment on fait? Ça dépend du partenaire. Est-ce que c'est un domaine où vous êtes obligé de passer par une entreprise chinoise. Il faut faire une analyse beaucoup, beaucoup plus fine. Mais la distinction quand même sur la question États-Unis-Chine, c'est que je pense sur le plan commercial. Il peut y avoir des armistices, même si Trump est guidé par une idée simple, c'est il faut casser la figure de tous ceux qui ont des excédents sur les États-Unis. Mmh. Il se dira jamais que les voitures allemandes sont mieux que les voitures américaines, ce qui est une évidence. Il dira, c'est vraiment dégoûtant ce que font les Allemands. Donc il est obsédé par la Chine, par l'Allemagne, un peu le Japon. Il y avait la question Elena. Mais sur le plan, il n'empêche que sur le plan commercial, il peut tout à fait menacer, changer, passer un deal, un armistice, puis le violer le lendemain, réattaquer. Bon, c'est commercial, ça. Après, il faut faire l'analyse secteur par secteur. Sur le plan stratégique, je ne vois pas l'armistice encore. Parce que les États-Unis contrôlent le monde quand même depuis 1945, encore plus depuis la fin de l'Union soviétique. Et en face, il y a la Chine, qui remonte de façon spectaculaire depuis la ligne Deng Xiaoping, et qui était masquée après, mais qui a assumé depuis ici. Vous voyez ? Et l'idée est simple, en 2049...
Sacrément assuré.
Le centenaire de la création du Parti communiste chinois à Shanghai, la Chine sera le numéro un. Et tout le reste, c'est des manifestations de ça, de proclamation ou d'habileté ou autre, de la soie et compagnie. C'est pas tolérable pour les États-Unis. Donc, à un moment ou un autre, je sais pas comment ça va se passer. C'est le thème du livre, vous savez, de l'Américain Graham Allison sur le piège de Thucydide, en disant chaque fois qu'il y a un ordre établi et qu'un pays l'a contesté dans l'histoire, ça c'est pas toujours. Presque toujours, terminé par une guerre. Mmh. J'annonce pas la guerre. Hein. Mais je serais étonné qu'il n'y ait pas un moment donné, dans le Pacifique, dans les mers de Chine, à propos de Taïwan ou d'un îlot, je ne sais pas, je serais étonné qu'il n'y ait pas un moment donné un vrai clash.
Hong Kong, on voit ce qui se passe.
Pas Hong Kong.
Et des images terribles hein, de répression qui commencent.
Pour le moment, la Chine fait tout pour réussir à asphyxier le mouvement sans intervenir militairement.
Ouais.
Elle cherche à l'asphyxier.
Bon. Ouais, mais c'est les images de ce week-end montaient quand même Hong Kong, montait d'un cran.
Hong Kong, oui, je sais. Hong Kong, c'est un morceau de la Chine. Il y a le système, normalement, un pays, deux systèmes. Bon, Hong Kong est censé avoir une autonomie encore un certain temps. Mm-hmm. Bon. Mais il n'y aura pas un affrontement avec les États-Unis sur Hong Kong. Il n'y a pas un traité d'alliance entre les États-Unis et Hong Kong.
Non,
il n'y a pas la question de liberté de circulation des bateaux. Donc, Hong Kong, c'est symbolique, c'est important, effectivement. On aimerait.
Vous pensez que les Occidentaux et les Américains ne viendront jamais au secours, entre guillemets, de Hong Kong, si besoin est, si besoin est.
Attendez, on a colonisé le monde entier pendant 2 ou 3 siècles. Mm-hmm. On a décolonisé après, y compris Hong Kong, que la Grande-Bretagne a dû rétrocéder. C'est l'époque où j'étais ministre.
Oui.
Bon, c'est fini. On ne va pas recoloniser le monde.
Même temps, je vous signale que l'éviction du G8 de la Russie de Vladimir Poutine, c'est à propos de la Russie et de l'Ukraine. Hein, donc, c'est-à-dire le fait que la Russie ait pris.
Les Occidentaux sont intervenus militairement en Ukraine ?
Non, ils ne sont pas intervenus. Bon.
Donc, il y a eu 20 à 30 ans où l'Occident était saisi une sorte d'hubris, on a vaincu l'URSS, on a gagné, on est le maître du monde, c'est la fin de l'histoire, nos valeurs, etc. Mais on n'est pas revenu à une sorte d'intervention systématique. Et les interventions qui ont eu lieu depuis 25 ans, on ne va pas dire qu'elles ont toutes bien tourné. Vous voyez,
d'accord.
États-Unis en
Donc
Irak.
Donc vous pensez que de manière, l'Occident ne bougera jamais sur Hong Kong ?
Les autres, d'accord. Pas que les Occidentaux, les autres. Même les pays qui sont à côté, qui aimeraient bien quand Hong Kong garde son autonomie. Elle gardera peut-être un peu d'autonomie quand même.
Bon, ne serait-ce pour des questions économiques.
Il faut dissocier ce qu'on peut souhaiter pour les Hongkongais, naturellement. Le maintien d'un système d'autonomie avec plus de liberté, etc. Mm-hmm. Et que le poids de la Chine soit moins fort que ce qu'il est. Mais puisque vous me posez la question des grands conflits, en fait, je vous dis, c'est pas là où ça peut naître. Ça peut naître à propos de la liberté de circulation maritime dans les mers de Chine, assurée par les 7 flottes américaines depuis 1945, pas que par des conventions. Et comme la Chine conquiert des îlots, les installe, commence à dire non, c'est chez moi, il faut me demander l'autorisation, je serais étonné qu'il n'y ait pas un clash un jour. Vous voyez ? Ou alors c'est sur Taïwan, qui est un plus gros morceau.
D'accord.
Parce que là, il y a un lien entre les États-Unis et Taïwan.
Bien sûr.
Il y a des ventes d'armes tout à fait modernes des États-Unis à Taïwan. Et le système militaire chinois se développe un peu pour être capable de reprendre le contrôle. Donc là, il y a une extrapolation. Alors j'espère de tout cœur pour tout le monde qu'ils trouveront une façon de s'arrêter. Qu'à un moment donné, il y aura l'équivalent de ce que Nixon et Kissinger avaient fait avec l'URSS. À un moment donné, on se calme, on parle, même si on se déteste, on se parle, etc. Mais c'est pas sûr, vous voyez. Ça, c'est le stratégique.
Mais je ne sais pas si c'est rassurant ce que vous nous dites, mais enfin, en tous les cas, c'est très intéressant.
Merci. Je cherche à être exact. Mais sur le commercial, par contre, puisque vous parliez d'entreprise, il peut y avoir beaucoup d'armistice.
Merci beaucoup. On a bien vu la distinction entre le commercial et la stratégie, un point important. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'heure H. Bonne journée, à demain.